session de théologie à Rimont, le 2 novembre 1991. 11e cours, 15h30. Père Samuel, foi et intelligence.
L'homme de Dieu est plus réel que la créature. Y a-t-il des différents degrés de réel? Oui, il y a des différents degrés de réel. Déjà au niveau de l'expérience humaine. La forme la plus moins grande, la moins réelle, ce qui dans le réel existe le moins, qui pourtant existe, c'est ce qu'on appelle l'intentionnel. C'est l'image, par exemple, ou le concept. Parce que c'est ce qu'on appelle des êtres intentionnels. C'est-à-dire qu'ils n'existent pas par eux-mêmes, ils existent relatifs. L'image, elle est dans l'imagination, ou bien elle est sur un support matériel, ou bien c'est une image matérielle. Et le concept, il est dans l'intelligence. Donc le concept, il n'a pas d'existence, l'idée, ou l'idée si vous voulez, d'une autre manière. L'idée n'a pas d'existence autre que celle de l'intelligence. Donc elle n'existe pas du tout par elle-même. Et puis à l'intérieur des... Vous avez les réalités physiques, qui ne sont que physiques. Vous avez les réalités vivantes. Et puis vous avez l'esprit, que je n'expérimente jamais seul d'ailleurs. Moi je n'ai des expériences de l'esprit que dans la personne. Je ne suis pas capable de savoir s'il existe un esprit en dehors de la personne. Je n'expérimente pas d'autre esprit que celui de la personne. Je peux affirmer que Dieu est esprit en sagesse. Et donc il y a des degrés d'existence qui sont, oui, il y a des degrés d'existence qui ne sont pas les mêmes. Une réalité vivante existe plus qu'une réalité purement physique. Ce qui ne veut pas dire que la réalité physique existe moins que l'autre, vous voyez. Comme si elle n'existait pas tout à fait. Et l'intra-intentionnel, il ne faut pas dire qu'il n'existe pas, mais il n'existe qu'à l'intérieur de... Son existence est relative à l'imagination et à l'intelligence. Ou à l'intelligence.
L'être de raison, comment
tu... L'être de raison, c'est encore autre chose. Parce que l'être de raison, c'est... C'est le contenu du concept. C'est un être qui est purement pensé. Parce que ce concept, il a un contenu. Par exemple, la vache. L'idée de la vache. La signification. La signification, c'est un être de raison. C'est le contenu du concept qui est un être de raison. Et le concept comme tel, c'est un être intentionnel. C'est pas tout à fait la même chose. Là, je regarde l'aspect du... C'est quelque chose de vivant, un concept. C'est le fruit de quelque chose de vivant. L'intelligence, c'est vivant. Et l'intelligence a un fruit qui est l'idée. C'est la fécondité de l'intelligence, si vous voulez. Mais c'est une fécondité qui, encore une fois, qui n'est pas substantielle. Je n'engendre pas des idées au sens fort. D'ailleurs, on utilise le mot de conception. Concept, ça vient de conception. On dit qu'on conçoit quelque chose, ça veut dire qu'on crée quelque chose. Mais on ne le crée pas tout à fait parce qu'il n'est pas capable d'exister en dehors de moi. C'est la grande nostalgie du poète ou de l'artiste. C'est qu'il voudrait que son idée, elle puisse se mettre à vivre. Toute seule. Je ne peux pas engendrer quelque chose qui serait à mon image, qui serait le domaine de l'idée. C'est les nostalgies de... Alors, le grand problème, c'est ça, c'est que il y a du plus réel, mais il n'y a pas du moins réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses qui existent... Parmi ce que j'ai... Quand j'imagine quelque chose, l'image, elle existe comme image. Et c'est une chose, le contenu de l'image. Par exemple, un éléphant qui vole. Ça n'existe pas en dehors de votre imagination. D'accord ? Tout le problème de l'intelligence humaine, c'est d'essayer de voir. Le problème de la vérité, c'est de savoir si le concept il correspond au réel ou pas. Je peux inventer des significations nouvelles, par exemple l'éléphant qui vole. Faire des dessins animés avec. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une réalité qui correspond à mon idée ? Et c'est ce réel, c'est le réel concret qui va juger de la vérité de ce que j'ai imaginé. Alors c'est pour ça que Dieu, évidemment, Dieu, il est plus réel que tout. Ça, je l'affirme au point de vue philosophique sans en avoir l'expérience. En philosophie, je dirais que Dieu, il est, au sens absolu du terme. C'est-à-dire qu'il n'est relativement à rien, il n'est rien d'autre que lui-même, il n'est par personne d'autre que lui-même, et tout n'existe que par lui et en lui. Ce qui ne veut pas dire, contrairement à la théologie souvent musulmane, que l'homme n'est rien, ou que la créature n'est rien. Elle est presque rien, vu du point de vue de Dieu. Mais ce presque rien, c'est déjà immense. Et comme en plus ce presque rien est créé par amour, c'est énorme. Alors c'est difficile parce que les degrés du réel, ça se fait pas, mais c'est pas imaginatif. Les degrés d'intensité, c'est imaginatif. Les degrés, point de vue de la perfection morale, on arrive aussi à imaginer. Mais les degrés de réel, ça ne s'imagine pas, puisque par exemple c'est du domaine du réel et pas du domaine de l'idée. Tout ce qui est vraiment du côté du réel, on a du mal à imaginer, parce que précisément c'est du côté du réel. Donc il faut laisser ça, vous voyez, en se disant, bon, il va falloir aller chercher dans le réel ce qu'on me dit. Et pas trop essayer de le comprendre dans sa tête. Plus on est dans la philosophie, et moins on comprend dans sa tête. Plus on comprend dans le réel. Plus on est dans les sciences positives, et plus on comprend dans sa tête, et moins on comprend dans le réel. Dans sa tête, c'est très facile de comprendre que la réalité est composée de petites choses qui s'appellent des atomes. Dans le réel, c'est pas du tout évident, parce que chaque fois que vous prenez votre poêle à frire ou votre frigidaire, c'est très difficile de vous imaginer que c'est composé essentiellement de vide. Ce que vous affirme la science. Vous voyez, c'est important de voir que l'expérience du réel, enfin l'intelligence dans son travail de compréhension du réel de manière immédiate, joue sur un autre registre, on va le revoir, que l'intelligence des sciences positives qui ne cherchent pas à prolonger l'expérience immédiate, absolument pas. Et donc qui n'ont rien à me dire quant à l'expérience immédiate. La physique, l'analyse, la théorie des particules n'a rien à me dire de l'expérience quotidienne que j'ai de la matière. On va revoir, hein, ça va être le problème de Dieu et la science. Mais c'est important de bien voir, vous voyez, qu'il y a deux types d'expériences complètement différentes. La science ne part pas de l'expérience, elle part de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'elle construit des appareils, elle construit une théorie et elle vient vérifier si ça marche. Mais elle ne part pas de l'expérience brute. Le physicien, ça ne l'intéresse pas, la manière dont on pousse les carottes. Ou même le biologiste. Les carottes qui poussent, ça ne l'intéresse pas. L'analyse et des mesures et des propriétés de la culture des carottes, ça l'intéresse. Combien ça coûte ? Ça intéresse l'économiste. À quelle vitesse ça pousse ? Ça intéresse le biologiste. Et quels sont les éléments qu'il compose ? Ça l'intéresse aussi. Mais la carotte comme telle, ça l'intéresse. Cette carotte-là, ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est la carotte en soi, telle qu'il la pense, pas telle qu'il la mange. Le biologiste ne s'intéresse pas à la carotte que vous mangez. Il s'intéresse qu'à la carotte biologique. Alors que l'homme, il s'intéresse à la carotte tout court, et pour la manger, et pour la cultiver, et pour la donner à manger aux animaux. Et pour s'intéresser au phénomène de la vie. Le tout, c'est de changer de vitesse. C'est-à-dire que quand on a un regard uniquement humain, on a un regard uniquement humain. Ensuite, quand on a un regard de scientifique, il faut savoir qu'on change de vitesse, pas mélanger les deux. Il ne faut pas faire de l'astrophysique quand il faut faire cuire les plats, ni faire de la cuisine quand il s'agit de faire de la biologie. Alors, quel rapport existe-t-il entre la foi et l'intuition de l'intelligence ? Quel est également le rapport avec l'inspiration ? Qu'est-ce que c'est que l'intuition ? L'intuition, c'est la mise en relation par l'intelligence entre deux réalités ou entre deux idées. C'est l'intelligence qui rapproche la connaissance qu'elle a d'une chose et la connaissance qu'elle a d'une autre. C'est toujours un rapprochement, une intuition. J'ai jamais l'intuition d'une réalité. Jamais. Vous n'aurez jamais l'intuition de la casserole devant laquelle vous vous trouvez. Ni l'intuition du chien, ni l'intuition de la personne devant laquelle... Par contre, vous pouvez avoir l'intuition de ce que l'autre aime. Alors ça, oui. En rapprochant tel événement de tel autre événement, vous vous apercevez qu'en fait, même s'il le cachait bien, il n'aime pas les carottes. Ou inversement. Il préfère les carottes cuites à l'eau que celles cuites au four. Ça, vous pouvez en avoir l'intuition. En rapprochant deux événements. D'accord ? La foi ne travaille pas par intuition, puisque forcément, elle porte sur un jugement. Dans la foi, il y a un jugement immédiat. Il n'y a pas un rapprochement. Alors, là où je me sers de l'intuition, c'est dans le travail de la théologie, par exemple. Dans l'Écriture, il est dit que Dieu a aimé Jacob et haï Ésaü. Et il est dit dans Saint Jean que Dieu est amour. Intuitivement, je peux rapprocher les paroles l'une de l'autre et essayer de comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est quelqu'un alors qu'il est amour ? Mais toute la théologie, ça marche comme ça. C'est le rapprochement intuitif de deux paroles contradictoires dans l'Écriture pour s'obliger à être intelligent. Alors l'intuition peut porter sur des choses qui se ressemblent ou sur des choses qui sont opposées. Et le travail de l'Écriture, c'est ça, c'est de rapprocher. Le travail théologique peut se servir de l'intuition. Mais la mesure de la foi et de la théologie, c'est pas l'intuition. Alors l'inspiration, c'est encore autre chose, l'inspiration. L'inspiration, c'est comme une synthèse d'intuition. C'est beaucoup plus synthétique, l'inspiration. Vous avez des gens intuitifs qui ne sont pas des inspirés du tout. Vous avez des bricoleurs intuitifs qui ne sont pas du tout des inspirés. Dans l'ordre artistique, vous avez beaucoup de gens intuitifs, vous n'avez pas beaucoup de grands inspirés. L'intuitif, il a tout le temps des idées. L'inspiré, il crée des œuvres, c'est pas la même chose. On voit ça dans le domaine de l'art. Quand les gens font des romans ou de la musique ou bien de la peinture à partir d'une idée, tous leurs tableaux se ressemblent. Ils ont eu une intuition dans leur vie et ils n'ont fait que répéter 500 fois dans leur vie la même intuition. C'est détendant, mais c'est pas génial. Le génie, c'est précisément celui qui dépasse les intuitions particulières pour créer quelque chose, pour faire une synthèse. Ça, c'est au point de vue humain. Ensuite, ce qu'on appelle l'inspiration divine, c'est autre chose. Quand on parle d'inspiration divine, c'est que l'Esprit Saint est présent en nous. Parce que l'artiste, il a toujours l'impression que, quand il a une idée géniale, que ça lui vient d'ailleurs. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs. L'artiste a tendance, dans certains cas, différemment du scientifique, de se prendre aussi pour un mystique. Et dès qu'il conçoit quelque chose, surtout quand il est chrétien, c'est l'Esprit Saint. En fait, c'est pas du tout l'Esprit Saint. La preuve, il suffit de voir le résultat. Vous n'avez qu'à aller voir la future cathédrale. Bon, lui, il n'est pas croyant, donc ça ne sera pas inspiré, mais vous n'avez qu'à voir le sanctuaire Sainte-Bernadette à Lourdes. Il est très pieux, mais je ne sais pas s'il prétend que c'est l'Esprit Saint qui l'a inspiré, mais le pauvre Esprit Saint. On espère que ce n'est pas l'Esprit Saint. Et il y a quantité de gens qui sont des artistes dits chrétiens, qui ont l'inspiration qui est à la mesure de leur intelligence, qui est plus ou moins grande, et qui est plus ou moins christianisée en plus. Donc il ne faut pas confondre la venue d'une inspiration qui est le fait que se cristallise dans l'intelligence tout d'un coup une synthèse créatrice, mais elle se cristallise, vous voyez, à cause d'une quantité de choses, et tout d'un coup ça se cristallise, comme dans les réactions chimiques. Il y a un moment où tout d'un coup ça se fait. Il ne faut pas confondre ça avec le don de l'Esprit Saint, qui m'inspire, voilà, de dire à mon frère la parole qu'il lui faut. Ça, c'est autre chose. Alors, Dieu peut se servir de l'inspiration artistique. Dans le cas des Écritures, par exemple, les Écritures, elles sont inspirées, c'est-à-dire que les auteurs qui les ont rédigées, dans certains cas, avaient une inspiration artistique géniale, dans d'autres cas, pas. Vous lisez le livre des Maccabées, c'est écrit par quelqu'un qui est un historien consciencieux, mais qui n'a rien d'un artiste génial. Alors que quand vous lisez le Cantique des Cantiques, celui qui a écrit le Cantique des Cantiques, c'était un poète génial, inspiré. Mais l'inspiration des Écritures, c'est pas ça. L'inspiration des Écritures, c'est que l'Esprit Saint les a guidés, leur a pas dicté les Écritures, mais les a guidés de manière telle que la parole de Dieu, ce que Dieu veut me dire, coïncide avec leur inspiration. Vous voyez, Dieu respecte les instruments dont il se sert. C'est comme un prédicateur. Un prédicateur, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais il peut être inspiré. C'est-à-dire que sa manière de parler, et même sa forme d'esprit, peut coïncider avec ce que Dieu veut me dire. Alors j'ai à distinguer quand je suis touché par la parole du prédicateur, parce qu'il dit des choses que j'aime bien, et qu'il a une tête qui me revient, et quand c'est l'Esprit Saint qui s'en sert. Le meilleur signe, c'est quand ça ne me plaît pas. C'est quand je suis touché par quelque chose qui ne me plaît pas. Là, je suis sûr que c'est l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est des paroles qui convertissent, ça. Là, je suis certain que c'était l'Esprit Saint, parce que concrètement, ces genres de paroles, ça me faisait fuir. Et là, tout d'un coup, ça me touche. Là, je suis sûr que c'est inspiré. Celui qui est inspiré au point de vue divin n'en a pas nécessairement conscience. Alors que celui qui est inspiré au point de vue artistique, il sait qu'il est inspiré. Parce qu'il ne l'est pas tout le temps. Alors c'est vrai, je ne l'ai pas développé, hein, c'est une des formes de l'intelligence, l'intuition aussi. Alors c'est une question importante. Il semble que vous évacuez d'emblée l'imaginaire. Or n'est-il pas un lieu d'intelligence? L'art notamment en est la réalisation concrète, c'est le lieu de l'intuition, de l'inspiration, de l'admiration de l'imaginaire. Alors pourquoi exclure celle-ci de l'intelligence permettant d'accompagner la foi? Et si une telle exclusion se révèle, ne faites-vous pas de l'intelligence quelque chose qui se rapproche plus d'un panorama de la raison que de l'intelligence? Alors, il faut distinguer l'imagination, l'imaginaire et l'intelligence. L'imagination, c'est la capacité vitale. En moi, il y a une capacité vitale de gérer les images, entre guillemets, qui s'appelle l'imagination. L'imagination, c'est une capacité de... Non, c'est pas la mémoire. La mémoire, elle garde les images. En moi, il y a une... Je suis un vivant capable de conserver les images, ce qui est déjà absolument étonnant. Et pas de les conserver comme un ordinateur ou comme un appareil photo. Je ne me contente pas de les enregistrer. Parce que l'enregistrement, ça n'assimile pas. Je les assimile, c'est-à-dire que les images font partie du vivant. D'accord ? La pellicule ne fait pas partie de l'appareil. Elle est dans l'appareil. Mon imagination et ma mémoire ne sont pas en moi, dans moi. Elles font partie de moi. Donc j'assimile l'image. Je la conserve par la mémoire. Mais non seulement je suis capable de la conserver, mais je suis capable de m'en servir de cette image, de la synthétiser, de la décomposer, de la comparer avec d'autres, de la synthétiser avec d'autres, de la manipuler, si vous voulez. Ça, c'est l'imagination. Capacité d'utilisation de l'image. Alors les images, c'est visuel, tactile, auditif, olfactif, enfin c'est toutes les formes d'image. Et l'intelligence, notamment dans l'art, se sert de l'imagination. C'est évident. L'inspiration artistique, c'est l'intelligence dans l'imagination. Mais c'est pas l'imagination. L'imagination, c'est pas l'intelligence. L'imagination peut servir à l'intelligence. Quand vous inventez quelque chose, il y a l'intelligence. Les animaux n'inventent pas. Ou c'est instinctif, mais on n'a jamais vu un castor qui tout d'un coup s'arrête et qui dit « je vais faire un coffrage à béton parce que comme ça mes barrages sont plus solides ». Il n'invente pas au sens fort. Il a une certaine latitude, si vous voulez. Mais il ne crée pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas de recul par rapport à ce qu'il fait. L'animal est dans ce qu'il fait, il n'a pas de recul par rapport à ce qu'il fait. Il ne s'arrête pas pour réfléchir et pour savoir comment il va construire sa maison. Et donc l'art manifeste bien que l'intelligence se sert des images et par l'image a une emprise sur le réel. Parce que c'est vrai non seulement dans l'inspiration mais dans l'exécution. Vous servez tout le temps de votre imagination dès que vous avez à travailler. Alors l'imaginaire, c'est une manière d'exprimer la déviation de l'imagination. Enfin, c'est une question de terme, hein. On peut appeler l'imaginaire autrement. Mais l'imaginaire, si vous voulez, c'est le... Au sens strict, d'ailleurs, c'est le contenu de l'imagination, l'imaginaire. C'est cette espèce de banque d'images, de matériaux imaginatifs. Et ce matériau imaginatif, il n'a pas d'ordre. Alors, ou bien l'intelligence artistique s'en sert, et à ce moment-là, elle y met un certain ordre, mais elle y met un ordre quand elle s'en sert. Mais l'imagination, l'imaginaire comme tel, n'a pas d'ordre en lui-même. C'est pour ça que si l'intelligence devient relative à l'imaginaire, elle n'est plus capable de rejoindre le réel. Parce que l'imaginaire comme tel ne me conduit pas au réel. Si je rejoins le réel, je peux me servir. Je dirais, l'intelligence qui rejoint le réel peut se servir de l'imaginaire. L'intelligence, elle est faite pour le réel. Et donc, l'intelligence rectifiée par le réel peut se servir de l'imaginaire. Et au point de vue artistique, et au point de vue affectif, et au point de vue humain, et au point de vue de la réflexion philosophique ou théologique. Alors, la raison, c'est autre chose. Hein. La raison, c'est précisément un usage. C'est l'usage, l'alliance entre l'intelligence et l'imagination, mais dans le domaine logique. La raison, c'est la démarche de l'intelligence, le raisonnement. La raison, c'est beaucoup plus proche de la logique que l'intelligence. La raison, c'est ce qui raisonne. L'intelligence, c'est ce qui atteint. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose d'être raisonnable et d'être intelligent. C'est des gens très raisonnables qui sont pas intelligents du tout. Ils sont raisonnables au sens où ils raisonnent bien, c'est-à-dire que tout ce qu'ils font est logique. Mais il y a des logiques qui sont des logiques pas intelligentes, parce qu'elles ne sont pas du tout appropriées au terrain. C'est vrai, une logique de plombier quand il s'agit de faire de l'orfèvrerie, ou d'une logique d'orfèvre quand il s'agit de faire de la plomberie, ça donne pas de bons résultats. Au point de vue affectif, c'est la même chose. On a adopté telle attitude avec telle personne, vous voyez, de manière raisonnable, c'est-à-dire de manière logique, on essaye de transposer ça, et on le transpose matériellement. On a un comportement raisonnable. Mais un comportement raisonnable n'est pas nécessairement intelligent. Alors, chez les Grecs, mais déjà chez les Latins, il y a une petite différence entre les deux. Chez les Grecs, il n'y a pas de différence. Les Grecs, ils connaissaient que l'intelligence. La raison, ça ne les intéressait pas beaucoup. C'est les Romains qui ont inventé la raison. Si vous voulez, la raison, c'est la gestion de l'intelligence. Alors, c'est très utile et c'est très grand quand c'est relatif à l'intelligence. La logique, c'est remarquable quand ça s'efface devant l'intelligence. C'est insupportable quand ça la remplace. Pour ça, regardez la sculpture grecque et les imitations romaines. Vous prenez la même statue, faite par un grec et reproduite par un romain. Vous comprenez tout de suite la différence entre la raison et l'intelligence. Chez le grec, il y a l'intelligence. C'est-à-dire que c'est pas toujours... Vous voyez, il y a la grâce. C'est pas très puissant nécessairement, mais il y a une luminosité, et le romain, il a transposé matériellement, il a logifié tout ce qui était fin. Vous prenez le néo-roman du 19e siècle, il y en a pas mal dans le pays là, vous regardez, le néo-roman et le véritable roman. C'est on a traduit quelque chose qui était inspiré en une logique des formes. Alors on n'a rien compris. C'est qu'on a tout. Vous savez, c'est le Viollet-le-Duc, par exemple. Viollet-le-Duc, c'est la raison. Qui voulait reconstruire toutes les cathédrales en faisant les tours symétriques. À Notre-Dame, il avait toutes les grandes Chartres aussi. Je crois que c'est à Chartres qu'il avait prévu de détruire, de faire les deux tours pareilles, parce qu'il fallait que ça soit symétrique. C'est la rigueur, la raison. Mais quand elle est pas relative à l'intelligence, on sait qu'il y a une rigueur qui n'est pas nécessairement très subtile. Pourrait-on préciser comment on découvre que l'intelligence est ordonnée à ce qui est? Je veux dire par l'expérience. Ce que je vous disais, c'est qu'on ne découvre ce qu'est l'intelligence qu'au fur et à mesure qu'elle se développe. C'est-à-dire que c'est à force d'être dans le réel que je finis par m'apercevoir que je suis fait pour ça. Mais a priori, je ne peux pas le montrer. C'est comme d'aimer. Je ne peux pas me prouver à moi-même a priori que j'aime. Il n'y a qu'en aimant que je découvre que j'aime. Vous voyez, c'est très étonnant, ces opérations humaines qui sont les plus importantes, d'ailleurs, l'intelligence et la volonté, qui n'ont pas d'autre preuve que leur existence même. Et nous, on n'est pas habitué à ça. Vous voyez, ça s'appelle ce qu'on pourrait appeler la rigueur de la naïveté. La naïveté, quand c'est au fond de croire ce qui m'apparaît et de me tromper, c'est pas intelligent. Mais il y a une naïveté fondamentale de l'intelligence et de l'amour qui sont précisément le mode propre d'exercice de l'intelligence et de la volonté. Autrement dit, l'intelligence n'est pas faite pour fonctionner sous contrôle d'autre chose, sous contrôle de la raison. Pas plus que l'amour ne fonctionne sous le contrôle d'autre chose. La mesure de l'amour, c'est l'amour, et la mesure du réalisme de l'intelligence, c'est le réel lui-même. J'arriverai jamais à le prouver autrement qu'en le vivant. C'est le père Philippe qui, une fois, a fait une réflexion un peu dure à une brave dame qui lui disait que elle avait aucune preuve que l'esprit existait, qu'elle ne voyait vraiment pas pourquoi est-ce que on affirmait que l'esprit existait. Elle lui dit, oui, madame, pour le découvrir, il faut en avoir. C'était, quand on le prend au point de vue effectif, c'est un peu dur, mais quand on le prend au point de vue métaphysique, c'est parfaitement juste. C'est-à-dire que je ne peux pas savoir que j'ai une intelligence si je ne l'exerce pas. Et donc si je ne découvre pas ce que c'est qu'une opération spirituelle, je ne peux pas savoir que j'ai un esprit. Je ne peux pas le savoir, je n'ai pas de moyens, je ne l'expérimente pas. Vous voyez, le problème, c'est quand la raison précède l'intelligence. Quand la raison précède l'intelligence, elle l'étouffe. Parce que précisément, je n'accepterai plus rien que ce qu'on me prouve par un raisonnement. Ça, c'est le positivisme logique. Et c'est qu'au fond, je ne veux rien croire qui ne me soit prouvé. Rien croire. Or, précisément, je ne vous prouverai jamais que cette table existe. Sauf à vous la laisser tomber sur le pied. Et mais c'est important de voir que... Parce que c'est là qu'elle est la source. Vous voyez, je veux dire, le lieu où aujourd'hui l'intelligence elle est mise en danger, c'est dans sa conjonction directe avec le réel. Et on a du mal à accepter, vous voyez, à accepter l'humilité ou l'humiliation de n'avoir d'autre source de connaissance que ce lien qui passe par la sensation en plus. Donc on va chercher plein de moyens de se récupérer, de se prouver à soi-même qu'on a raison, de vérifier qu'on a raison. Très très intéressant d'étudier dans l'histoire de la pensée occidentale le lien qu'il y a entre le développement de la science et la peur de l'homme vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du réel. Quand j'ai peur de Dieu, regardez la Genèse, à partir du moment où on a peur de Dieu, et la peur de Dieu, ça apparaît à partir du 14e siècle avec le bienheureux Occam, et puis avec d'autres raisons historiques et culturelles, notamment les grandes épidémies et la peste, et ensuite la guerre. Mais c'est très frappant et puis après ça la réforme. Et c'est très impressionnant de voir que plus on a peur, et plus la science se développe. Parce que je vous disais, elle développe des certitudes, et donc elle me prouve tout ce qu'elle me dit, de manière absolument implacable. Et en plus, elle le prouve par la technique, puisqu'elle arrive à mettre en œuvre ce qu'elle démontre. Alors comme tel, c'est pas mauvais. Mais quand au fond, tout mon mode de connaissance, vous voyez, ça développe ce qu'on appelle le positivisme. C'est-à-dire que je ne crois plus que ce que je suis capable de prouver logiquement et que ce que je suis capable de mettre en œuvre efficacement. Et donc, vis-à-vis de la gratuité de la connaissance, parce que c'est gratuit de découvrir que ça existe, la raison scientifique ricane. Lisez les philosophes à partir après Descartes, vis-à-vis de ce qu'on appelle ce qu'ils appellent l'intelligence naïve, celle qui croit qu'effectivement c'est une table. Ils ricanent tous. C'était Braunschweig qui disait, messieurs, mesdames, nous allons faire de la philosophie, vous rangez votre bon sens au placard. Alors, c'est vrai qu'il faut ranger son bon sens, ses a priori au placard. Et le bon sens, il est plein d'a priori. Donc il faut le ranger au placard, en partie. Mais ce qu'il ne faut pas ranger au placard, c'est mon lien avec le réel. Très important, parce que dans la théologie, c'est la même chose. À partir du 14e siècle, on a fait une théologie apologétique, c'est-à-dire de défense de la foi. On a vécu comme des gens attaqués. On se demande par, vous voyez, en quoi, parce que le Christ est victorieux, donc je veux dire, on n'a pas. Mais on a commencé à défendre la foi, c'est-à-dire précisément à se prouver à soi-même et à vouloir prouver aux autres qu'on avait raison contre eux. C'est ce qui n'est pas intelligent, ça, ça ne développe pas l'intelligence. Oui, au lieu de se battre pour aller chercher à continuer à creuser le mystère, on s'est battu contre ceux qui niaient ce qu'on avait dit. Vous savez, c'est les discussions épuisantes. Au bout de 4 heures de discussion, où on essayait désespérément de prouver à l'autre qu'il avait tort et qu'on avait raison, et que les deux combattants épuisés, vous voyez, s'en vont dormir exactement au même état que le point de départ. Ça sert à rien du tout. Et on est encore plus certain qu'on a raison à la sortie, parce qu'on se dit, j'ai pas perdu tout ce temps-là, et qu'en plus j'aurais tort. Vous riez, mais c'est un... quand vous regardez l'histoire de la théologie en Occident, c'est vrai qu'il y a une sclérose de la recherche théologique à partir du 14e, 15e siècle. Pas de la sainteté, ça c'est sûr, mais de la théologie, si. Et alors on finit par avoir l'obsession de l'erreur en plus. Parce que à force de dépister toutes les choses qui sont fausses, on ne vit plus que contre ce qui est faux. On ne sait plus tout à fait ce qui est vrai, mais on ne sait plus que ce qui est vrai que parce que ce qui est faux. Donc au fond, c'est les hérésies qui nous aident à savoir qu'on a raison. C'est pas très bon ça, c'est pas très sain au point de vue humain. Alors ça, c'est la même question que tout à l'heure, mais il me semble que vous avez dit que Dieu est plus réel que la créature, ça c'est sûr. Comment peut-on parler de plus et de moins au sujet de l'être? Est-ce une appréciation au niveau de la qualité d'être, ou est-ce au niveau de l'être même, du fait d'exister, qui pourtant ne semble pas variable quand il est considéré au niveau du jugement existence? Dieu est, la table est. C'est vrai que Dieu existe et que la table existe, mais ils n'existent pas de la même manière. C'est vrai que la personne existe, et que l'animal existe. Mais plus on apprend à connaître la personne, et plus on s'aperçoit qu'elle existe tout autrement que l'animal. C'est un animal. Mais en même temps, elle est tout autre qu'un animal. C'est ça qui n'est pas simple dans la personne humaine. Et elle n'est pas simplement tout autre d'un animal parce qu'elle a un esprit. Donc ce n'est pas un animal plus un esprit. Mais la personne, dans tout ce qu'elle est, jusque dans son corps, est tout autre qu'un animal. L'homme n'est pas un corps animal avec un esprit spirituel. Avec une âme spirituelle. C'est un être dont l'existence est autre que l'animal. Parce que son existence implique l'esprit. Si vous voulez, mon corps, il est spirituel, au sens où il est personnel, il fait partie de ma personne. Je n'ai pas un corps animal d'un côté avec autre chose. Mon corps, parce qu'il est celui de ma personne, il est lié immédiatement dans son être même à l'esprit. Alors c'est moins facile à comprendre que s'il y avait d'un côté la matière, de l'autre côté l'esprit. C'est beaucoup plus facile, c'est pour ça que tout le monde... C'est vrai, ça fait partie des a priori de l'intelligence occidentale. C'est au fond de dire, voilà, c'est très simple, il y a d'un côté la matière, de l'autre côté l'esprit. Ce qui est très gênant pour l'incarnation d'ailleurs. Parce que Dieu ait assumé le corps d'un animal, c'est un peu gênant. Vous avez parlé du danger des médiations. Car avec la médiation, il y a toujours une déperdition de vérité. Je n'ai pas dit ça. Hein. Il n'y a pas nécessairement de déperdition de la vérité. Il y a un risque de déperdition de la vérité. Mais dans certains cas, c'est l'inverse, puisque la médiation m'aide à mieux recevoir la vérité. Un enseignement, c'est fait pour qu'on reçoive mieux la vérité, que d'être obligé de se confronter au réel. Uniquement. Si on vous explique comment éviter les tournants glissants, ça vous donne, et qu'on vous explique en quoi est-ce que de conduire sur du verglas est dangereux, vous gagnez plus de temps et vous comprenez mieux que si vous êtes obligé d'avoir 5 accidents avant de comprendre. Vous voyez, l'aspect de l'enseignement me prépare à recevoir la vérité. Un apprenti maçon, on ne lui donne pas une truelle à un tas de ciment et de l'eau en lui disant maintenant apprends. On lui explique. En même temps, Dieu aime donner des médiateurs pour communiquer sa grâce. Même si ces médiateurs font de même quelque part écran à la grâce. Pourriez-vous préciser quel est le gain apporté par la fréquentation des médiateurs? Bon, quand je fréquente mon frère, je fréquente le médiateur. alors que forcément, sauf pour Marie, ils réduisent plus ou moins le don qui est fait. Pourquoi aussi Dieu veut-il des médiateurs? Ça dépend, ils réduisent le don qui est fait. Quand je suis obligé d'aimer mon frère, non seulement parce qu'il est bon, mais en plus parce qu'il est pécheur, ça m'oblige de l'aimer plus. Donc ça m'invite à un amour encore plus grand. Ça serait facile de l'aimer s'il n'était pas pécheur. Mais le fait qu'il soit pécheur, ça m'oblige à un amour plus grand. Donc la limite des médiateurs fait partie de la surabondance de l'amour. C'est vrai, ce que je vous disais ce matin, le fait que le Seigneur veuille se servir de nous pour annoncer l'Évangile, et qu'il ait choisi de n'avoir que nous. Pour dire, c'est affligeant, parce que entre ce qu'on va transmettre et le mystère, vous voyez, c'est vraiment, c'est même pas de la vulgarisation. Scientifique, c'est pire que ça. C'est vrai du côté de la, oui, du côté du contenu de ce que je transmets, mais du côté de l'amour que ça réclame, c'est pas vrai. Oui, on voit ça très bien dans la vie religieuse. Obéir à l'autorité d'un pauvre type, ça réclame un beaucoup plus grand amour et une bien plus grande intelligence que d'obéir à quelqu'un qui est très intelligent et qui est parfaitement sain. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut choisir celui qui est le plus bête et le moins sain pour le mettre à la tête de la communauté. Mais c'est vrai que Dieu multiplie les médiateurs pour que la miséricorde surabonde. Et c'est très étonnant que la miséricorde rectifie les erreurs du médiateur. Si mon frère n'est pas très futé, vous voyez, qu'il me fait une homélie avec tout son cœur, et que moi je le reçois avec tout mon cœur, mais que ce qu'il dit c'est quand même un peu de travers, parce qu'il n'a pas tout à fait compris, la charité va instinctivement rectifier en moi. Vous voyez, je dirais, la miséricorde me rend intelligent, et ça corrige tous les défauts du médiateur. L'Église n'est pas faite, si vous voulez, pour être un transmetteur, mais un transmetteur absolument fidèle. Sinon, à la place du pape, on aurait eu une somme théologique. Et le Christ nous apparaîtrait régulièrement pour nous faire des cours. Or non, il choisit des prêtres, des évêques et le pape. Et ensuite, il choisit nous et tous les laïcs, puisque tous les laïcs sont chargés aussi d'évangélisation. Alors c'est vrai, tous les matins, quand vous regardez dans la glace, et voilà, le Seigneur a choisi ça comme médiateur. Alors, l'infaillibilité de l'Église, elle est là pour garantir le minimum de qualité de la transmission. C'est vrai. Pour être garant de l'essentiel de la foi. Et quand on voit, vous voyez, la pauvre créature humaine, la qualité avec laquelle elle a réussi dans la tradition des saints à transmettre le mystère de Dieu, c'est déjà remarquable. On doit vraiment, vous voyez, c'est impressionnant. Quand vous lisez l'Évangile de Saint Jean, vous vous dites que pour quelqu'un ait eu la pauvreté et la sainteté d'aller jusque-là comme docilité à l'Esprit-Saint pour être capable de dire ce qu'il dit juste après le Christ, parce qu'il n'avait pas de minante théologie derrière lui pour l'aider à comprendre. On est très impressionné. Mais c'est pas d'abord pour la... Je voulais, Dieu garantit la fidélité de la médiation, mais c'est pas d'abord pour ça. Il aurait utilisé de tout autre moyen. L'Église, elle est là pour rendre témoignage à la vérité. Elle n'est pas là pour être le congélateur de la vérité. Congélateur, ça vous transmet les choses fidèlement. Le témoignage, c'est précisément, ça tient compte du fait que le fait que je sois fêlé, Dieu va s'en servir pour que la vérité soit encore mieux transmise. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que plus le médiateur fait écran et plus c'est sain. Demandez au Seigneur pourquoi il a choisi les 12 apôtres qu'il a choisis. Qui n'étaient pas précisément des gens très fidèles. L'oraison est le lieu et l'activité privilégiée pour rencontrer le Seigneur dans la foi. Le labeur est d'être le plus possible présent au Christ lui-même, déjà présent à mon âme. Mon acte de foi est d'adhérer à cette présence, sans en avoir l'évidence par les sens. Quel rôle joue l'hostie eucharistique que je vois avec mes sens dans mon acte de foi intérieur ? Où se situe ma vision sensible du Christ hostie par rapport à mon acte de foi? Mais précisément, elle m'oblige à la foi, et en même temps qu'elle m'aide à la foi. Vous voyez, l'adoration de l'Eucharistie m'oblige, enfin m'aide plus exactement à offrir mon intelligence à Dieu dans la foi et l'intelligence de ma sensibilité. Non seulement l'intelligence, vous voyez, abstraite, si vous voulez, enfin l'intelligence qui porte directement sur Dieu, mais c'est même mon intelligence des choses matérielles qui est transformée. Vous voyez, j'irai dans l'Eucharistie, j'apprends à croire à la présence de Dieu jusque dans la matière. C'est ça qui est fou dans l'Eucharistie. À la présence du don de l'amour du Christ sous un signe matériel. Ce qui est une manière d'apprendre à croire à la toute-puissance de l'amour de Dieu. Et d'en vivre de cette toute-puissance de l'amour de Dieu. Si vous voulez, ça oblige à ma foi à être à la fois la plus contemplative qui soit, parce que je ne peux absolument pas m'appuyer sur ce que je vois, et en même temps, la plus concrète et pratique qui soit. Parce qu'il faut que l'intensité de mon adhésion, vous voyez, porte sur ce que je vois précisément. Dans quelle mesure sommes-nous capables de rectifier un acte de foi pas très pur ? On ne sait pas très bien s'ils sont purs nos actes de foi. On n'est pas, nous ne sommes pas les juges de la qualité de nos actes, point de vue de la vie théologale. Il n'y a pas de tour de contrôle à côté de nos actes de foi. Alors, je voulais juste repréciser ce qu'on a commencé à voir ce matin. C'est comment est-ce que la foi... Comment Dieu se sert de toutes les formes de mon intelligence ? L'intelligence qui est faite pour le réel, dans son lien immédiat avec le réel, on a vu que c'est l'acte de foi dans toute sa pureté. Et déjà dans la parole de Dieu, je trouve différentes formes d'intelligence. Il y a des poèmes dans la parole de Dieu. Il y a une histoire dans la parole de Dieu. Il y a des personnes dans la parole de Dieu. Et Dieu se révèle à travers le mode poétique, à travers le mode historique, à travers les personnes, à travers les événements. Dieu se révèle aussi à moi à travers les saints, qui parlent à mon intelligence affective. Il parle à moi, il me parle, ou il se révèle à moi à travers les sacrements, qui s'adressent à mon intelligence artistique. Et il se révèle à moi à travers l'enseignement de l'Église et la théologie. On va voir s'il s'adresse à mon intelligence philosophique ou scientifique. On va le revoir. Parce que la philosophie est une science. Vous voyez, l'intelligence affective, elle est à la fois par les saints et puis par les personnes dont me parle l'Écriture. La personne de Nicodème, ou la personne de Pierre, ou la personne de Jean, telles qu'elles me sont révélées dans la parole de Dieu, comme la vie des saints, ce que j'en sais, ou mes frères aussi. Parce que saint Paul n'hésite pas à appeler ses frères les saints. Ceux qui sont élus, ceux qui sont appelés par Dieu. La charité fraternelle, si vous voulez. La charité fraternelle, elle implique cette intelligence affective. Elle me fait découvrir Dieu à travers l'intelligence affective. Il y a un exercice de l'intelligence dans la charité fraternelle. La foi liée à la charité fraternelle a à découvrir la lumière que Dieu me donne sur son amour à travers la charité, à travers les saints. Dans les sacrements aussi, alors c'est des distinctions, hein. Les sacrements aussi, ils impliquent l'intelligence affective, parce que l'art et l'affectivité sont toujours liés. Mais mon intelligence artistique, mon intelligence symbolique, Dieu s'adresse à elle, à la fois à travers tout ce qu'il y a de littéraire et de poétique dans la parole de Dieu, et puis à travers les sacrements. La beauté, si vous voulez. Dieu s'adresse à mon sens de la beauté, à mon intelligence de la beauté. Et Dieu m'apprend, à travers les sacrements, à travers la parole de Dieu, à découvrir la beauté du mystère de Dieu. Je dirais là, c'est la bonté. Il y a la beauté. Là, c'est la vérité. Alors, ils sont liés, évidemment. Mais l'enseignement du Christ, les gestes du Christ me révèlent sa bonté. Les paraboles ou les miracles me révèlent, ou la transfiguration, par exemple, me révèlent quelque chose de la beauté du mystère de Dieu. Et l'enseignement du Christ me révèle en premier lieu la vérité. Quand je lis la parole de Dieu, je n'ai pas à recevoir avec la même forme d'intelligence l'enseignement sur le pain de vie, la guérison, le miracle de Cana et le don de Jean à Marie. Et à chaque fois, je suis face à quelque chose qui est différent, qui fait appel à une intelligence en moi qui est différente. Si j'ai une intelligence très artistique et pas tellement affective, il y a plein de choses que je ne comprendrai pas du tout. Il faudra du temps que mon intelligence affective se développe pour que je me mette à le comprendre.
Session de théologie à Rimont, le 2 novembre 1991. 12e cours, 16h30, Père Samuel, foi et intelligence.
Donc la question qu'on va essayer de regarder, on va essayer de la poser de la manière la plus claire possible, c'est est-ce que l'intelligence dans la foi peut se servir directement des sciences humaines et des sciences positives. Alors les sciences humaines, hein, c'est l'histoire, la géographie, l'économie, la psychologie, la sociologie, et tous les dérivés possibles et imaginables. Les sciences positives, c'est les mathématiques, la physique, la chimie, l'astrophysique, la biologie. On a vu que dans la parole de Dieu et en dehors de la parole de Dieu, Dieu s'adressait à mon intelligence affective, à mon intelligence artistique, à mon intelligence qui est philosophique, vous voyez, pour faire de manière brève, c'est celle qui est faite pour la sagesse, pour atteindre le réel et la sagesse de manière immédiate. Et la philosophie est une science, c'est-à-dire que à travers l'enseignement du Christ, et tout le travail de la théologie sera dans ce sens-là, c'est d'essayer de parler de Dieu avec la rigueur la plus grande, le sens du nécessaire le plus grand possible. La plus grande rigueur de l'intelligence. Et de la raison, pour le coup. En théologie, il y a un raisonnement. D'essayer d'en parler de la manière la plus vraie qui soit. Ça, c'est l'effort de la théologie. La théologie, si vous voulez, c'est la réponse de l'homme à l'enseignement du Christ. le Christ m'enseigne, et quand il m'enseigne, il le fait dans Saint Jean et dans d'autres écrits, et dans d'autres parties de l'écriture, dans la sagesse par exemple, avec une précision et une rigueur qui réclament de moi une intelligence, pas simplement du bon sens, mais progressivement une soif de la sagesse. Et d'essayer de parler moi-même du mystère de Dieu avec la plus grande précision et la plus grande vérité. Ou si vous voulez que ma parole et que mon enseignement conduisent immédiatement au mystère. En discernant d'ailleurs dans la parole de Dieu ce qui me conduit immédiatement au mystère. Dire que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Est-ce que c'est quelque chose à prendre symboliquement? Ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel je peux m'appuyer pour entrer immédiatement dans le mystère de Dieu? C'est le travail de la théologie, de discerner ce qui est de l'ordre de la métaphore, c'est-à-dire ce qui renvoie à l'intelligence artistique, et puis ce qui est de l'ordre de ce qui me conduit directement à la vérité. Ça ne veut pas dire que la métaphore ne conduit pas à la vérité, hein. Mais la métaphore, elle conduit à la vérité par le symbole. Quand il est dit que Dieu a le bras long et la main étendue, ou qu'il siège sur son trône, quand vous lisez l'Apocalypse, l'Apocalypse vous conduit au mystère de Dieu par le symbole. Donc il ne s'adresse pas à votre intelligence faite immédiatement pour la vérité, pour le réel, pardon, il s'adresse à votre intelligence symbolique. Alors, l'autre, elle est toujours présente, hein. C'est évident que l'intelligence, elle est plus radicale que le symbole, que la philosophie ou que l'affectivité. Et c'est le travail de la théologie de discerner les lieux, vous voyez, ce que... Le credo, c'est ça. Le credo, c'est ce qui me conduit directement au mystère. Quand l'Église proclame un dogme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle me donne une voie d'accès immédiate au mystère. Elle me dit, voilà, si vous comprenez, si vous essayez de comprendre l'affirmation suivante, dans la foi, vous entrerez directement dans le mystère. Par contre, si vous affirmez autre chose, il y a des chances que vous vous trouviez à côté de la plaque. Si vous dites qu'il y a deux personnes dans le Christ, une personne humaine, une personne divine, unies l'une à l'autre, peut-être que votre jugement de foi, c'est-à-dire que la lumière que Dieu vous donne est juste, peut-être même que vous êtes saint. C'est-à-dire que vous avez vraiment le désir de chercher la vérité, mais l'affirmation que vous dites, elle ne vous conduit pas au mystère. C'est ça qu'on vous dira qu'elle est fausse. Elle n'est pas fausse simplement selon des critères humains. Elle est fausse parce qu'elle ne me conduit pas au mystère. Ça, l'hérésie, c'est ça. Enfin, l'hérésie, c'est celui qui s'obstine là-dedans. C'est-à-dire qui maintient que sa formule est la bonne et que ça conduit vraiment à adorer Dieu. Donc c'est le travail de la théologie, de me donner les sentiers, les directissimes, comme on dit en montagne. Les directissimes, c'est les voies d'accès les plus directes, immédiates. Celles qui ne passent pas par des contours et des détours et des choses... Alors c'est pour ça que c'est un peu raide, si vous voulez, c'est pour apprendre à grimper la théologie, tout droit. Alors la question, c'est encore une fois les sciences humaines. Alors elles peuvent m'aider en partie. Celles-là, elles ne m'aident pas beaucoup par rapport à la parole de Dieu. Celles-là, elles peuvent m'aider, si vous voulez, dans la parole. Je peux lire la parole de Dieu historiquement, sociologiquement, économiquement, ethnologiquement, géographiquement. La question est de savoir, est-ce que ça enrichit ma foi? Pas directement. Pourquoi? Parce que ces sciences ne regardent pas l'homme en tant qu'homme. Elles ont beau être humaines, elles regardent l'homme dans son fonctionnement, dans son conditionnement. Mais elles ne le regardent pas en tant qu'homme. Un historien ne s'intéresse pas à Napoléon en tant qu'homme. Elle s'intéresse au personnage de Napoléon et à son agissement dans l'histoire. Il ne peut pas s'y intéresser en tant qu'homme, elle ne l'a jamais rencontré. L'historien n'a jamais rencontré Napoléon, donc ça n'a pas de sens qu'il s'y intéresse, il ne le rencontrera jamais. Donc il n'a pas moyen d'en parler. Ce qu'il essaye, c'est de se représenter un événement de manière aussi cohérente que ce soit possible que ce soit, de manière la plus fidèle possible, en accord avec les documents qu'il a, pour essayer de voir... Comment est-ce que cet événement est en interaction avec les uns avec les autres? Voyez, les sciences humaines ou positives s'intéressent aux lois. Les lois qui unissent les hommes les uns aux autres. Ou les lois qui unissent les événements les uns aux autres. Ou, par exemple, dans la psychologie, les lois qui unissent les parties de l'affectivité les unes aux autres. Mais même le psychologue ne s'intéresse pas à l'homme en tant qu'il est un homme. Il s'intéresse au fonctionnement du psychisme de l'homme. Pas en tant qu'il est humain. À la limite, ça lui égale qu'il soit humain ou pas. Si ce n'est qu'il va l'appliquer à lui. Et donc, parce qu'il ne s'intéresse pas, parce que c'est science, et c'est pas ce qu'on leur demande. Hein. On ne demande pas à un économiste de s'intéresser à l'homme en tant qu'homme, comme économiste. On lui demande de dégager des lois de l'économie et d'être capable de prévoir. Alors, au psychologue, c'est une question de savoir si on ne lui demande pas en plus, pour être vraiment psychologue, de regarder l'homme en tant qu'homme. Ça, c'est comme le médecin. La médecine, est-ce que c'est une science humaine? Enfin bon, ça c'est un... Mais je peux faire de la psychologie expérimentale en traitant l'homme comme un animal. Je regarde une famille de rats, une famille d'abeilles, un troupeau de moutons, et un comportement animal, et j'essaie de comprendre la psychologie de groupe et la psychologie individuelle, différentes chez l'homme et l'animal. Mais je m'intéresse, c'est pas mon travail de m'intéresser à ce qu'il y a de spécifiquement humain. Ce qui fait que l'homme est homme. Parce que c'est précisément pas sa psychologie qui fait que l'homme est homme. Alors ça peut apparaître à travers sa psychologie. Et c'est ça, c'est pour ça que le psychologue, il aura besoin en plus de connaître l'homme pour lui-même. Sur l'historien, il aura avantage aussi, et le géographe aussi, et en fait toutes les sciences humaines auront intérêt pour précisément pas sombrer pour pas absolutiser et croire que la connaissance qu'il aurait donnée est une connaissance de l'homme comme homme, d'avoir en plus une connaissance de l'homme en tant qu'homme. Ce qui est le travail d'ailleurs de la philosophie. C'est précisément le travail de la philosophie, de réfléchir sur l'homme qu'en tant qu'il est homme. Et pas de s'intéresser d'abord à son fonctionnement ni à son conditionnement. Alors, c'est pas très utile. Alors que ça, c'est très utile. Ça, c'est très utilisable. Parce que ça ne regarde pas l'homme directement en tant qu'homme, ça n'éclaire pas immédiatement ma foi, parce que ça ne me révèle rien de l'homme en tant que tel et de Dieu. Par contre, ça m'éclaire sur le fonctionnement et le conditionnement humain que je retrouve dans la parole de Dieu. Effectivement, je redécouvre, il y a une histoire dans la parole de Dieu. Et les lois de fonctionnement certaines lois de fonctionnement de l'histoire, je les retrouve dans la parole de Dieu. Certains types de construction littéraire, enfin vous voyez, je peux analyser la parole de Dieu selon ces critères-là. Et ça m'aide à mieux comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne, la parole de Dieu. Mais c'est pas ça qui me l'a fait recevoir comme parole de Dieu. Vous pouvez analyser le comportement sociologique des apôtres, ça ne vous fait pas plus comprendre quel est le dessein de Dieu dans l'économie divine quand il institue des apôtres. Parce que ce n'est pas un mystère, le fonctionnement sociologique des apôtres. C'est le même que le nôtre. Avec l'aspect qu'ils étaient en l'an zéro, en Galilée, qu'ils étaient des pêcheurs de poissons. Donc c'est une psychologie particulière. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est important, c'est pas faux. Mais ça ne me renseigne pas immédiatement sur ce que je vais croire. Donc c'est périphérique. Alors l'avantage, c'est que ça m'aide à mieux croire, ça m'oblige à mieux croire. Et à ne pas confondre ce qui est précisément de l'ordre de ce que Dieu me révèle avec la petite histoire. Alors, a fortiori pour les sciences positives, qui étudient encore moins l'homme en tant qu'homme. C'est pour ça que, au sens fort, les sciences positives au carré, les sciences positives, elles ne me disent rien de l'homme en tant qu'homme. Pas plus qu'elles ne me disent d'ailleurs, ni l'une ni l'autre, quoi que ce soit sur l'être, sur l'existence. Et donc, elles sont incapables, l'une et l'autre, de me dire quoi que ce soit sur Dieu. La science ne me conduira jamais à Dieu. Elle me conduit à des problèmes insolubles, alors ça tout à fait. Mais problème insoluble, c'est pas égal à Dieu, j'ai pas besoin de Dieu chaque fois que j'ai un problème insoluble. C'est ce qu'ont dit les grands scientifiques au début de l'ère positiviste, c'est de dire que c'était précisément un signe d'immaturité notoire, typiquement chrétien, de s'imaginer qu'on avait besoin de Dieu chaque fois qu'on avait un problème. Et d'appeler ça le mystère, alors qu'en fait c'était simplement un problème scientifique qu'on n'allait pas tarder à résoudre. C'est vrai, c'est l'attitude des premiers positivistes qui disent, mais vous appelez ça le mystère? Pas du tout, c'est un problème qu'on arrivera à résoudre scientifiquement. Et n'appelez pas miracle ce qui est en fait est simplement un phénomène que vous ignorez encore. Et c'est très étonnant parce qu'aujourd'hui, on veut remettre Dieu derrière les problèmes. Dieu n'a rien à voir avec les problèmes scientifiques, rien du tout. Qu'il ait quelque chose à voir avec les problèmes que ça suscite dans le scientifique, alors là oui. Vous voyez ? que ça lui provoque des problèmes à lui, alors là oui, et là Dieu a un lien direct avec le scientifique. Que sa science le remette en cause et l'oblige à se poser des questions de l'ordre philosophique et religieux, alors là tout à fait. Mais ça n'a rien, mais c'est pas sa science qui l'amène à Dieu. Pas plus d'ailleurs le Big Bang que quoi que ce soit d'autre. Le Big Bang, c'est... Enfin, la théorie du Big Bang, c'est au mieux, au pire, c'est quelque chose qui n'est même pas scientifique, mais au mieux, ça pourrait être une théorie sur la matière. Mais je ne vois pas en quoi j'aurais besoin d'un créateur dans cette histoire-là. C'est pas parce qu'à un moment, je ne peux plus rien dire qu'il y a Dieu derrière. Alors, on rêve de l'instant zéro, on ne sait rien du tout. L'instant zéro, c'est le moment où on ne peut plus dire ce qu'il y a avant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça veut encore moins dire qu'il y a Dieu. Vous voyez, il faut être un peu rigoureux scientifiquement avec les scientifiques. Les grands scientifiques le savent. Mais c'est important de voir, et c'est vrai aussi des sciences humaines d'ailleurs. Les problèmes des sciences humaines, les limites des sciences humaines ne me disent rien sur Dieu. Au mieux, elles me disent quelque chose sur l'histoire de l'idée de Dieu dans l'humanité. Alors là, oui. Donc elles me disent des choses sur le comportement religieux. Mais elles ne peuvent pas me parler de ce qui correspond pour l'homme à ce comportement. Ce n'est pas leur travail, d'ailleurs. C'est pour ça que je peux me servir de la parole de Dieu pour vérifier ce que mes sciences ont étudié. Et c'est vrai, je peux faire, si vous voulez, je peux étudier la parole de Dieu pour en architecte, en tout ce que vous voudrez. En maçon, en agriculteur, je peux m'intéresser à la culture dans la parole de Dieu et voir comment poussent les carottes dans la parole de Dieu. L'art culinaire dans la parole de Dieu. Vous pouvez faire une thèse sur l'art culinaire dans la parole de Dieu. On fait des études scientifiques en niveau ethnologique sur le lien qu'il y a entre les sacrifices sacrés et la cuisson. Parce que la cuisine est très élaborée dans beaucoup de civilisations en fonction d'un tout un symbolisme sacré. Alors vous pouvez étudier la manière de cuire les choses dans la parole de Dieu. Et pourquoi Jésus fait cuire le poisson grillé le matin? Quel est le symbolisme? Alors, c'est possible, c'est pas inintéressant. Et ça fait partie de la culture véhiculée par la parole de Dieu. Mais ça n'intervient pas immédiatement dans ma foi. Parce que Dieu, dans la parole de Dieu, s'adresse à moi comme homme. Il ne s'adresse pas à moi comme scientifique. Alors que vous voyez, l'art touche directement l'homme. L'art, il s'adresse à l'homme. L'art, il ne s'adresse pas à l'artiste. La philosophie, elle s'adresse à l'homme. Et l'intelligence affective, elle est directement, elle est présente, elle porte sur la personne. Alors, c'est le problème de l'ambiguïté des sciences humaines. Il faudrait appeler ça les sciences du conditionnement humain. Alors, vous voyez, c'est toute l'ambiguïté du livre du bienheureux Jean Guiton qui part de données scientifiques qu'il vulgarise, qui traite ensuite poétiquement et dont il conclut des choses philosophiques auxquelles il ajoute la foi. Vous voyez le problème? Il part de données scientifiques. Il part de données scientifiques. Hein. Il a les frères Bogdanov qui lui donnent des données scientifiques. Alors, ces données scientifiques, il ne les donne pas en tant que scientifique, il les vulgarise. Parce qu'il faut bien que les gens auxquels il s'adresse comprennent quelque chose. Donc il les simplifie. D'ailleurs, souvent, d'après les scientifiques, de manière abusive. Avec des images. Alors, il se sert beaucoup d'images. Il vous parle du pauvre petit électron perdu dans l'infini de l'univers. C'est complètement imaginatif. Parce que l'infini, on ne sait pas ce que c'est. L'univers, on ne sait pas ce que c'est non plus. Et les électrons, c'est tout juste si on sait. Donc parlons pas d'un pauvre petit électron perdu en plus dans l'infini de l'univers. Et alors, il en conclut, ce qui voudrait être philosophique, ça ne peut pas être philosophique, puisqu'il ne part pas de l'expérience. Je n'ai pas l'expérience, ni des données scientifiques, et encore moins de l'imagination que je m'en fais. Je n'ai pas d'expérience de l'électron. Pas plus que du Big Bang, pas plus que du début de l'univers, pas plus que de la physique quantique. Je n'en ai pas l'expérience. Je ne l'atteins que par reconstruction. La théorie, c'est une reconstruction. Alors quand en plus, on me dit qu'il faut qu'à partir de ça, je transforme ma vision des choses quotidiennes et que je me représente ma table comme au fond essentiellement des petits électrons qui gravitent les uns autour des autres, je dis non. Parce que ma table, c'est ma table. Et ça, j'en ai l'expérience. Alors que les électrons, on les a encore jamais vus. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas quelque chose. Hein. Mais ça veut dire qu'aucun scientifique n'a la prétention d'avoir jamais vu un électron, quand il est vraiment scientifique. Il a vu quelque chose qui provoque des effets qu'il arrive à expliquer avec une théorie électronique. Donc si vous voulez, ça correspond à son modèle. Vous entendez un bruit dans une pièce noire. Vous dites, c'est un enfant qui crie. C'est possible, vous ne savez pas si c'est un enfant. C'est l'hypothèse que vous émettez. Et si vous ouvrez la porte, vous apercevez que c'est qu'un magnétophone. C'était pas un enfant, c'était un magnétophone. Donc si vous voulez, c'est la différence entre l'expérience et l'hypothèse. Dans l'hypothèse scientifique, j'observe un phénomène et j'émets l'hypothèse quant à sa cause. Ça ressemble au bruit d'un enfant qui pleure. Mais c'est de passer du fait que les effets sont les mêmes que celui d'un enfant qui pleure à dire c'est un enfant qui pleure, ça je ne le peux pas. Alors le scientifique dit, ce que j'observe c'est comme une petite particule qui ferait ça. C'est comme, ça ne veut pas dire que c'en est une. C'est ce que montre très bien toujours le même physicien, grâce à la théorie de la physique quantique, où il montre qu'il y a une autre manière d'interpréter le même phénomène. Donc vous voyez, il ne faut pas que nous, surtout qui sommes qu'au niveau de la vulgarisation, qu'on s'imagine que ce qu'on nous représente avec des images, c'est une description du réel. C'est pas du tout une description du réel, c'est une interprétation vulgarisée d'une théorie scientifique. Enfin, c'est une interprétation vulgarisée du réel. Enfin, c'est pour ça qu'en plus, si vous passez de ça à des affirmations qui voudraient être philosophiques, et que, pour montrer que Dieu existe, et qu'en plus vous y ajoutez la foi, en disant que ça rejoint tout à fait ce que fait le croyant, c'est pas tout à fait juste. Il paraît, on vient de me dire que, après avoir été encensé comme le grand penseur génial chrétien du siècle dans beaucoup de journaux, un journal de la recherche scientifique vient d'écrire 4 articles sur lui pour lui montrer que le livre ne tient pas de A à Z. Alors c'est dommage parce que... Oui, je sais bien qu'il est âgé, mais... Le problème, c'est qu'on est en face le drapeau de l'intelligence chrétienne. Alors, c'est pour ça que c'est, oui, l'intention, elle est parfaitement louable. Hein. Parce que l'intention, elle était de répondre à l'intention au désir de Jean-Paul II, qui est précisément que l'intelligence du croyant s'applique à comprendre les rapports qu'il y a entre les sciences et la foi. Donc, c'est tout à fait louable comme intention. Le tout, c'est de respecter les changements de vitesse. Et de voir qu'il y a des domaines où je ne peux pas passer de l'un à l'autre. Je ne peux pas faire de la philosophie à partir de la psychologie. Je peux encore moins faire de la théologie à partir de la psychologie. Mais je ne peux pas du tout faire de la philosophie à partir de la physique, et encore moins de la théologie. Vous voyez, parce que ce par quoi je dois repasser à chaque fois, c'est l'homme. Donc j'ai à resituer à chaque fois par rapport à mon intelligence humaine, que j'expérimente dans mon lien immédiat avec le réel sensible, resituer mes autres formes de connaissances. Alors, c'est complexe, mais qu'est-ce que vous voulez, on est obligé, dans le monde dans lequel on est, de voir toutes ces vitesses possibles. Parce que sinon, on passe de l'une à l'autre, et alors on est dans la confusion complète. C'est le grand risque de ce qu'on appelle aujourd'hui le nouvel âge, qui en dehors d'une mode, est un courant de pensée qui est l'équivalent de ce qu'on appelle l'obscurantisme. C'est-à-dire de mélanger tous les niveaux de pensée, et de passer de l'un à l'autre comme on veut. C'est de pouvoir affirmer tout et l'inverse, vous voyez, pourvu que ça soit spirituel. C'est-à-dire que pourvu que vous vouliez le bien de l'homme, que vous parliez du problème de l'absolu, vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez. Et je dirais, pour le coup, on ne s'est pas fatigué pendant 2000 ou 4000 ans à avoir un minimum de rigueur de la pensée pour qu'on le gomme d'un trait de main. Et je crois que le croyant doit avoir, à cause du fait qu'il est dans un monde complexe, qui joue sur tous ces tableaux-là, un minimum de vigilance, et de se demander à qui on s'adresse. Ils savent qu'on retrouve ça des fois même dans les prédications, où on contemple l'amour de Dieu dans les petits électrons. Et on fait des analogies entre la Sainte Trinité et la fusion nucléaire. Enfin, alors, imaginativement, c'est très joli, si vous voulez, du côté de l'émotion affective. Mais le problème, c'est que ça c'est tout faux du côté du réel.
Par exemple, lorsque tu as une expérience à travers un microscope d'une goutte de sang,
oui.
Tu as quand même une expérience d'un mouvement.
Oui.
Alors évidemment, c'est un sensible commun.
Voilà.
Il y a quand même quelque chose de...
Ah, mais il y a un lien avec le réel.
Donc tu peux très bien faire le passage ensuite à l'atome.
Eh ben non.
Ah oui.
Non, parce que déjà quand tu prends une goutte de sang que tu mets sous un microscope, tu as séparé quelque chose qui normalement est uni au reste. J'ai pas l'expérience, moi, d'une goutte de sang. Au mieux, j'ai l'expérience humaine de ce que c'est que le sang. Mais si j'abstrais une goutte de sang et que je dis comme si c'était un individu, je projette déjà. C'est pas un individu, c'est l'élément d'une autre partie. Alors ensuite, je vais dire, voir que c'est composé de molécules. Très bien. Mais je vais dire, voilà, c'est comme. Je vais dire, c'est composé de molécules, donc l'individu, c'est la molécule. Ça, c'est pas vrai. C'est une partie d'un élément qui lui-même fait partie du sang, qui fait partie du corps. J'ai jamais vu du sang en dehors du corps. Sauf artificiellement. Donc, philosophiquement, où est-ce que je vais réfléchir sur le sang? Quand je réfléchis sur le corps. Donc, tant que je n'ai pas réfléchi sur ce que c'était que le corps, donc ce que c'est que la personne humaine et son âme, puisque le corps, il est vivant par autre chose que par la matière. Et donc, de ça, le regard, avoir un regard humain sur ma goutte de sang, ça réclame de découvrir que j'ai une âme, de comprendre ce que c'est que le corps humain, et de situer ce que c'est que le sang par rapport à ce corps humain. Ce qui n'est pas du tout évident. Et je m'apercevrai, ce qu'ont fait les orientaux d'ailleurs depuis longtemps, m'apercevoir que précisément le sang il est à comprendre comme faisant partie du corps humain et comme signifiant quelque chose du corps humain. Parce que ce que va faire mon microscope, c'est de grossir certaines choses en perdant tout le reste. Je vais avoir quoi? Je vais avoir les propriétés chimiques du sang. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que je perds l'essentiel de certaines de ces qualités? Est-ce que c'est comme le cœur? Est-ce que le cœur c'est d'abord une grosse pompe? C'est ce qu'on vous dit, on vous dit, mais on a cru pendant des millénaires que le cœur c'était un symbolisme qui était juste, c'est-à-dire que le cœur avait vraiment une importance dans le corps humain. Mais on s'aperçoit aujourd'hui en démythologisant l'imagination humaine que c'est qu'une grosse pompe. Est-ce que c'est vraiment qu'une grosse pompe? Je posais la question. Est-ce que mon corps n'est qu'un assemblage momentané d'un certain nombre d'éléments démontables? Vous voyez, c'est tout le problème. Le problème de la bioéthique, c'est ça. Est-ce que mon corps, c'est la même chose qu'une machine, sauf qu'elle est vivante? Et donc, si je ne peux pas faire la même chose, si je ne peux pas faire quelque chose avec une machine vivante, je vais la faire avec une machine non vivante. C'est tous ces problèmes-là, vous voyez. Quelle est la réalité face à laquelle je suis? Eh bien, dès que j'ai un microscope, je suis déjà dans l'abstraction. Que je ne suis plus face à une expérience qui me permet de situer ce que je vois par rapport à sa réalité, qui est d'être dans un corps humain. Alors, ça ne veut pas dire que je suis séparé du réel, hein, mais ça veut dire que j'ai à être lucide sur les abstractions progressives. Quand on vous parle du système sanguin, par exemple, vous n'avez pas d'expérience du système sanguin, vous avez une expérience du corps humain. Vous savez, quand en science nat, là, on dessine le système sanguin, le système digestif et tout ça, vous n'avez pas d'expérience du système digestif, vous avez une expérience de la nutrition. Vous n'avez jamais rencontré un système digestif. Parce que le système digestif, ça fait partie du corps. Et ce que j'expérimente dans mon intelligence sensiblement, c'est le corps, pas le système digestif. Je n'ai pas d'expérience sensible du système digestif, même quand j'ai mal au ventre. Je n'ai pas d'expérience sensible du système sanguin. J'expérience qu'il y a du sang en moi, ça oui, ça fait partie de mon corps. Mais pas du système sanguin, ça c'est une abstraction. Encore une fois, elle correspond à quelque chose de réel. Mais elle est déjà autre chose que mon expérience.
Donc le corps, quand tu dis ça, on a l'impression que le corps mesure
l'univers. Exactement. Non, en tout cas, il mesure le sang.
Parce que pour l'air, c'est la même chose. Si tu veux analyser de l'air, tu le détaches de quel...
Alors c'est vrai, pour les éléments matériels, il y aura quelque chose comme ça. C'est que, est-ce que je peux analyser... Est-ce qu'humainement, j'ai l'expérience d'un élément matériel séparé des autres? J'ai l'expérience du monde matériel. J'ai jamais l'expérience d'un élément de ce monde matériel à l'état pur. J'ai pas l'expérience d'un électron. J'ai l'expérience d'un corps sensible ou d'une matière sensible. Alors c'est très pauvre, hein, je ne vais pas très loin avec ça. Mais il faut que j'accepte que mon intelligence, là, ne va pas très loin. Dans son lien direct avec le réel. Même si elle peut aller beaucoup plus loin dans son analyse du fonctionnement. C'est-à-dire que je peux dire beaucoup plus de choses du fonctionnement dans certains cas que du réel. Les théories corpusculaires disent des choses très précises sur le fonctionnement et sont parfaitement rigoureuses quant au fonctionnement. Mais elles ne me disent pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Elles me disent comment ça marche. Elles savent comment ça marche, mais elles ne savent pas ce que c'est. Un biologiste, comme biologiste, ne sait pas ce que c'est que le corps humain. Il sait comment marchent des parties du corps humain. que pour savoir ce que c'est que le corps humain, il faut que je sache ce qu'est un homme. C'est pas le travail du biologiste.
Mais le biologiste retransforme en quelque sorte l'homme.
Oui.
L'attaque est au centre propre de ce qu'il est.
Oui, il le transforme.
Voilà, il le transforme. Donc vous dites que la biologie transforme, enfin ne touche pas l'homme.
Oui, alors c'est tout le problème, c'est qu'elles peuvent être efficaces sur l'homme.
Voilà, bien plus efficaces que la philosophie.
Tout à fait. Et c'est tout le problème, c'est que dès qu'elles ont, pas la biologie comme analyse, hein, mais les techniques biologiques, c'est-à-dire que quand je commence à me servir de ces sciences, comme de celle-là d'ailleurs, sur l'homme, la psychologie ça peut être une forme d'analyse, et ce moment-là j'ai pas besoin, je veux dire, j'ai pas besoin de la philosophie, ça peut m'aider, et puis ça peut servir pour agir sur l'homme. Bien, dès que je m'en sers pour agir sur l'homme, je n'ai pas le droit humainement de le faire sans un regard de sagesse. On me dit, mais c'est ce qu'on fait tous les jours quand on prend des médicaments. C'est vrai. C'est pas forcément un signe d'intelligence, même si on ne peut pas faire autrement. Parce que c'est vrai que ce qu'on découvre aujourd'hui, la médecine a été conçue à partir d'une analyse uniquement biologique. Ça marche sur les rats, donc on essaye sur vous. Le problème, c'est que je ne suis pas un rat. Alors, on adapte, c'est-à-dire que... Mais c'est vrai que concrètement, du côté de l'action, je ne peux pas savoir les conséquences de mes actes si je ne sais pas ce qu'est un homme. C'est pour ça que, aujourd'hui, la manière dont on se sert des médicaments, c'est comme de faire de la... Si vous voulez, ça serait comme de faire de la plomberie sur, je ne sais pas trop quoi, sur sur le corps humain. C'est traiter le corps humain comme de la plomberie. Oh non, c'est pas infini, non, non, non. Je suis pas infini, moi. Oui, mais il est pas, vous voyez, c'est pas par l'infini qu'il est à l'image de Dieu. C'est par l'amour et l'intelligence. Il n'est pas infini, l'homme. Ou plus exactement, vous voyez, il faudrait voir, est-ce qu'il a quelque chose, il a peut-être quelque chose d'infini, mais en tout cas, lui, il n'est pas infini. Le jour des morts, oui, on voit bien qu'il n'est pas infini. Il est limité dans le temps, dans le lieu, et même dans sa nature, il est limité. Parce que s'il était infini, il serait tout. Il n'est pas tout. Alors, je suis d'accord avec vous qu'il est à l'image de Dieu, mais pas par l'infini. Alors, c'est vrai que je ne pourrais jamais épuiser l'homme, mais au moins je peux savoir que la connaissance que j'en ai de manière immédiate, dans mon expérience quotidienne, est la connaissance la plus réaliste, c'est-à-dire celle qui correspond le plus à ce qu'est le réel. Parce que c'est une connaissance, encore une fois, qui n'est pas médiatisée. Alors, les connaissances qui se servent d'un intermédiaire ne sont pas gênantes si je suis lucide sur le fait que je me sers d'un intermédiaire. Donc que cet intermédiaire, je me sers d'un prisme. Si vous regardez le paysage à travers un bout de verre rouge, ça modifie tout. Il y a un prisme. Ben, c'est la même chose. Je me sers d'une grille de lecture là-dedans. Alors que la tentative de la recherche philosophique, c'est précisément de ne pas se servir d'une grille de lecture. C'est de travailler sans grille de lecture.
Mais nos sens ne sont pas dans une certaine mesure de médiation.
Si. Mais qui sont.
Quand on expérimente, nos sens, vous dites qu'on expérimente là-bas. Comment alors, c'est un non-sens, on peut expérimenter la table.
Ce qui est étonnant, c'est que vraiment, ce n'est pas des grilles, mes sens. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un lien de familiarité entre ma sensation et la table. Je fais partie du même monde matériel. Ça fait partie de la même famille que moi. Oui, parce que c'est de la matière et mon corps implique la matière. Donc le travail de ce que disaient déjà les Grecs, le travail de l'intelligence, c'est un travail de reconnaissance.
Mais la vue aussi.
Mais la vue aussi.
Alors à quoi ça. Je sais pas. Le fait de regarder avec nos yeux, de regarder avec, je sais pas moi, avec des lunettes.
Oui, oui.
Qu'est-ce que ça change?
Après, les lunettes, ça change pas, ça modifie peu, ça dépend. Mais dans certains cas, ça. Si elles ne sont pas colorées, les lunettes modifient très peu.
Bon, après, par extension, qu'est-ce que ça change par rapport au télescope?
Précisément. Dans le télescope, j'abstrais déjà. Parce que je sors quelque chose de son milieu. Je l'abstrais de son milieu.
C'est comme que. Enfin, parce que dans la formation de physicien, les lunettes, c'est, en fait, c'est les plus simples des télescopes. Tu vois.
Pas tout à fait, parce qu'en fait, le physicien, quand il travaille sur un télescope, il travaille pas directement sur ce qu'il voit. Voilà. Il traite ce qu'il voit. Ouais. Et précisément, il travaille pas sur ce qui l'intéresse, c'est pas ce que l'œil perçoit. C'est les rapports, les relations et les lois entre ce que je vous disais, c'est l'exemple de l'astrophysicien qui vous dit pendant 5 minutes que les astres c'est magnifique, puis après ça il vous donne que des chiffres. Parce que son travail c'est de vous donner des chiffres, c'est-à-dire de vous donner des rapports, mais pas de vous dire ce que sont les étoiles. Quand on vous a dit que les étoiles c'est des explosions nucléaires avec un certain nombre d'éléments chimiques à l'intérieur, on vous a rien dit. Parce que c'est quoi les étoiles par rapport à l'univers ? Et le théologien a fortiori dirait, mais qu'est-ce que ça signifie l'étoile dans la création de Dieu? Et c'est là que l'artiste dira, mais vous êtes très gentil, mais allez regarder l'art, et vous verrez que l'art vous dit bien plus de choses sur les étoiles que les astrophysiciens. Petit prince aussi. Et que peut-être qu'il est beaucoup plus proche de la vérité que la science.
C'est vrai, mais il faut que dire que les scientifiques n'expérimentent pas les étoiles.
Ils les expérimentent, mais ils n'en ont pas l'expérience. Hein, l'expérience, c'est celle qui unit directement mes sens au réel. Si, sauf quand on va dessus, quand on s'en approche. Ou si vous voulez, si j'en ai une expérience, mais qui n'est que visuelle. Et qui est très faible. Et l'artiste se sert de l'expérience que j'ai des étoiles, il ne se sert pas de ce que me dit la science. Ce qui l'intéresse le scientifique, c'est que l'artiste, c'est que les étoiles sont dans le ciel. Le scientifique, ça ne l'intéresse pas du tout que les étoiles soient dans le ciel. Ce qui l'intéresse, c'est qu'elles soient composées, je ne sais pas, d'hydrogène en explosion, mais que ça soit dans le ciel, et que ça soit en haut ou en bas, ça lui est complètement égal. Pour l'artiste, c'est très important que les étoiles soient en haut. C'est très important que la majorité des étoiles soient fixes et qu'il y en ait d'autres qui bougent. Même si on l'explique que toutes bougent, ça lui est complètement égal qu'elles bougent toutes. Lui, il ne voit pas qu'elles bougent toutes. Donc elles ne bougent pas toutes. Je parle de l'artiste, hein, je ne parle pas du philosophe. Mais c'est important de voir que l'agressivité de l'artiste à l'égard du scientifique, elle a quelque chose de juste. Parce qu'il dit, mais vous prétendez être rigoureux. Mais vous êtes rigoureux quant à la matière, quant à la mesure, quant à vos chiffres. Mais vous n'avez aucune rigueur quant à la qualité. Et précisément, la qualité m'approche plus de ce qu'est la chance que la quantité.
Est-ce qu'il a coûté cher à Galilée, ce système de pensée ?
Non, c'est plus compliqué. Ce qui a coûté cher, ça lui a pas coûté très cher d'abord.
C'est pas parce que l'Église voulait se substituer à la
science. C'est plus compliqué que ça. On a commencé par payer très cher Galilée pour qu'il fasse ses recherches. Et c'est le Vatican qui subventionnait ses recherches. Donc Galilée, ce qu'il a trouvé, il l'a trouvé grâce aux subsides du Vatican. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il était face à des gens pas très intelligents, mais il était très agressif aussi. Et on a plus condamné son insolence et la peur que provoquait sa science que de manière rigoureuse ce qu'il disait. C'est-à-dire Galilée avait la prétention de réinterpréter l'écriture à la lumière de la science. Et c'est vrai que là, on lui a dit « halte là ». Et du coup, on en a condamné sa théorie scientifique, ce qui n'était pas malin. Mais ce qui était juste, c'était de dire la science n'est pas un moyen d'interprétation de l'écriture. Parce que la prétention de l'écriture n'est pas de donner des renseignements scientifiques. Et donc, n'est pas d'être soumis à un traitement scientifique. Elle est plus du côté de l'art que du côté de la science. Mais je vous dis, il faudrait remonter, parce que c'est très étonnant la manière dont la science ça déclenche les passions. Je vous dis, quand on remonte à l'origine, le lien qu'il y a entre la peur du réel et la manière dont on se cramponne à la science, c'est très significatif.
Mais ça sert à quelque chose, en fait, finalement, la science.
Oui. C'est très efficace. C'est-à-dire que c'est gratuit. Et donc il y a quelque chose dans l'analyse scientifique qui est de l'ordre de la beauté. Il y a une soif de savoir pour savoir. C'est vrai, je dirais, le géographe, il n'a pas besoin, à la limite, il n'a pas besoin que ça soit efficace, ni de savoir si ça sert à la parole de Dieu pour que ça le passionne. C'est gratuit. Ensuite, elle est très efficace, dans certains domaines. Mais précisément, elle est de l'ordre de la gratuité de la connaissance. Et d'une connaissance qui est plus ou moins éloignée de l'homme. Et c'est pas gênant. Les mathématiques n'ont pas grand-chose à voir avec mon expérience quotidienne de l'homme, et ma qualité, mon niveau de mathématiques ne sera pas déterminant pour ma vision béatifique, mais ça n'empêche que les mathématiques sont absolument passionnantes. Mais comme connaissance.
Et Dieu, dans tout ça, pour les mathématiques, disons, de réfléchir sur un problème mathématique, est-ce
Dieu se cache pas derrière aussi.
Ben je crois pas. C'est précisément ça le problème, c'est que je crois pas. Je crois que ça peut être un moyen pour le mathématicien, découvrant la grandeur des mathématiques, de se mettre à admirer beaucoup d'autres choses, y compris Dieu. Donc pour sa personne, ça peut être un chemin.
Et sa passion pour la mathématique.
Voilà, et sa passion peut la conduire à une passion plus grande encore, qui est de chercher l'infini, et de chercher vers Dieu. Mais ce n'est pas les mathématiques comme mathématiques. Vous voyez, encore une fois, je suis obligé de repasser par l'homme. C'est pour ça que, mais je dirais, les choses importantes dans la vie ne sont, sont pas nécessairement celles qu'on peut mettre directement au service de la foi. L'homme est fait pour achever la création. Et en travaillant les sciences, ça fait partie de la manière d'achever la création, c'est-à-dire d'exploiter la connaissance aussi loin qu'il en est capable. Le tout, c'est de voir que ça ne coopère pas directement à sa foi. Mais pour le mathématicien, l'accomplissement de son travail, évidemment, ça fait partie de sa foi, s'il est croyant. Comme homme, la rigueur et le développement de la connaissance font partie de l'ennoblissement de l'homme. Mais vous voyez, c'est pas, encore une fois, c'est pas directement comme homme, c'est comme mathématicien. La foi s'adresse à l'homme, s'adresse pas aux spécialistes. Alors la dernière chose sur laquelle il faudrait, je vous laisserai réfléchir, c'est là, si vous voulez, on a l'instrument d'analyse. Hein, la compréhension de ces liens entre l'intelligence et la foi éclaire à la fois sur la manière dont la révélation réclame une réponse de l'homme et une coopération de l'homme. Donc elle, vous voyez, elle m'éclaire sur la manière dont Dieu se révèle à moi. Pourquoi est-ce qu'il se révèle à moi de cette manière-là? Et puis ensuite, elle m'aide à comprendre comment l'homme va coopérer dans son intelligence et par toute une partie de sa vie à la fois, et comment ensuite, inversement, donc si vous voulez, il y a une coopération de l'intelligence à la foi, il y a aussi la manière dont la foi va s'incarner dans l'intelligence. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inculturation, le problème de la culture. Comment est-ce que la foi rencontre la culture? Eh bien, par l'intelligence. Et donc, précisément, une culture qui rencontre, si vous voulez, une inculturation, c'est-à-dire une rencontre de la foi et de la culture qui procure un enrichissement mutuel, c'est-à-dire que la culture devient plus chrétienne et la foi devient plus croyante, réclame de discerner lieu par lieu et domaine par domaine les coopérations réelles entre la foi et l'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a une évangélisation de tous les domaines, alors y compris de la biologie, de la physique, des mathématiques, mais par le mathématicien, par le physicien, par le biologiste et par la recherche de la vérité. Mais c'est important de voir que le problème du lien entre la foi et la culture, qui est un problème très aigu aujourd'hui, puisqu'on est présent dans une culture qui n'est plus chrétienne, qui est post-chrétienne et souvent anti-chrétienne. Je dirais, le débat ou le conflit, il est au niveau de l'intelligence. Il n'est pas dans les conséquences, ça ne sert à rien de pousser des grands cris sur les conséquences. C'est normal qu'une culture non chrétienne ou anti-chrétienne ait des effets anti-chrétiens. Ça ne sert à rien de crier sur les effets. Si quelqu'un est malade, c'est normal qu'il ait les symptômes de sa maladie. La question, c'est quelle est la cause de sa maladie. Donc, si vous voulez, les dialogues entre la foi et la culture, ils sont souvent stériles quand ils sont sur les effets. Vous avez ceux qui disent, mais on est dans une culture laïque dont tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Vous avez ceux qui disent, mais pas du tout, parce que ça agresse les chrétiens. Le problème, il est de savoir qu'est-ce qu'il y a d'humain. Autrement dit, ce qui est baptisable, ou si vous voulez, ce qui est capable de coopérer avec la foi, c'est ce qui est intelligent, c'est-à-dire ce qui est humain. Donc le débat, il est de savoir, dans ma culture, qu'est-ce qui est humain. Tout ce qui est humain peut coopérer avec la foi. Tout ce qui est anti-humain ne peut pas coopérer avec la foi. Et parmi ce qui est humain, il y a des choses qui coopèrent plus immédiatement à la foi, c'est-à-dire la grandeur humaine dans l'art, la grandeur humaine dans l'intelligence affective et aimante, la grandeur humaine dans l'intelligence philosophique et dans la recherche de la vérité, et même la grandeur humaine dans la recherche de la vérité à travers les sciences. Vous voyez, le discernement, puisque c'est ce que réclame le Concile dit qu'on a à comprendre le monde dans lequel on est, et à repérer dans le monde dans lequel on est ce qui coopère à l'évangile et ce qui est contre l'évangile. Ben, c'est dans la source qu'il faut travailler. Vous voyez, je dirais, c'est dans, précisément dans... Quelle est l'intelligence que véhicule la culture dans laquelle on est ? Quelle est la vision du monde que véhicule la culture dans laquelle on est ? Et de savoir dans cette vision du monde, qu'est-ce qui correspond à ce qu'est l'homme et qu'est-ce qui ne peut pas correspondre à ce qu'est l'homme. Tout ce qui correspond à l'homme prépare l'évangile. Et peut devenir instrument, enfin vous voyez, peut devenir un terreau à évangéliser. Plus ou moins immédiat. L'art avant les mathématiques. Ou l'art avant le mathématicien, pardon. Et puis il y a des terreaux qui ne sont pas évangélisables parce que ce n'est pas humain. Alors c'est là qu'il faudrait voir en dernier lieu comment est-ce que la foi, ou la théologie, si vous voulez, l'intelligence de la foi et de la parole de Dieu me donne dans certains cas un discernement sur ce qui est humain et ce qui ne l'est pas, beaucoup plus profond. Que dans un monde qui n'est pas simplement païen, mais qui est après le christianisme et qui souvent est anti-chrétien, j'irais presque, j'ai besoin de la théologie pour comprendre certaines choses. Et c'est un monde, si vous voulez, anti-théologique. Vous voyez, je veux dire, qui a inversé la doctrine chrétienne. Il ne s'est pas contenté d'inverser, de refuser la foi ou de refuser le Christ, mais qui l'a inversé. Et c'est très important d'apprendre à voir comment est-ce qu'on est dans un monde qui, dans certains cas, fonctionne à l'envers. Il n'est pas simplement indifférent à Dieu. Il n'est pas athée, il est anti-chrétien, c'est pas la même chose. Pas partout, hein, faut pas voir des anti-chrétiens partout, mais c'est vrai, c'est ce que dit Jean-Paul II, il dit faut repérer les lieux où il y a un athéisme d'indifférence, et les lieux où le mode de fonctionnement de la culture est en fait contre la foi chrétienne. Pas simplement contre l'homme, mais à travers la manière dont elle est contre l'homme, elle est contre la foi chrétienne. Et dans certains cas, ça donne des moyens de lecture très concrets. C'est ce qu'il y a de dernier dans la théologie. C'est d'essayer de comprendre comment est-ce que le monde dans lequel on est a à la fois des aspirations de l'intelligence, qui est un héritage du christianisme, et donc des aspirations d'intelligence extrêmement grandes, et a souvent un usage de l'intelligence qui est inversé. Lisez Nietzsche. Vous verrez comment est-ce qu'on... Il y a chez lui une soif de la lumière et de la vérité qui est absolument immense, et il y a un fonctionnement de l'intelligence qui est souvent antichrétien. Pour ça, c'est un très bon modèle, vous voyez, du retournement de l'intelligence contre la foi. Et auquel je dois essayer de répondre en comprenant non seulement ce qu'est l'intelligence humaine, mais comment est-ce que l'intelligence, baptisée par la foi, si vous voulez, divinisée par la foi, entre dans la lumière de Dieu. Relisez dans l'encyclique sur les laïcs ce que Jean-Paul II dit sur la formation. C'est très beau. Parce qu'il dit qu'au fond, ça, cette vigilance intérieure, cette lucidité éclairée par l'Esprit-Saint, elle est la mission de chacun. Elle est plus réservée simplement à... Et une grande partie d'enseignement qu'il nous donne, le pape, porte là-dessus précisément. Il retravaille, il met son intelligence au service de la foi... D'abord pour nous éclairer sur le mystère et nous faire entrer toujours plus dans l'évangile, et puis ensuite pour nous éclairer sur le monde dans lequel on est.